un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Allons-nous vers un monde sans contact, où on salue sans contact, où on paie sans contact, où on ne touche pas et on voit à peine? Un monde où on travaille sans contact, en préférant le SMS au mail et le mail à la visio, où on se voit au pire à travers un écran. Un monde sans gestes déplacés, sans regard intrusif, sans commérage à la machine à café, sans odeur déplaisante. Un monde aussi où l'on fera l'amour sans contact, avec quelques restes de voix dans ces téléphones roses, redevenus en vogue avec le confinement. Et au mieux, avec des machines, des jouets de plaisir sophistiqués et efficaces. Et si ce monde sans contact était plus safe, plus rassurant, plus protecteur, moins intrusif, moins violent que la vie en 3D? Je vous entends déjà choquer, arc-bouter, évoquer l'odeur de la terre, la force des corps à corps, la langueur des réunions de travail IRL, le besoin des autres à la cantine. Et pourtant, faut-il qu'ils soient heureux sans contact pour être 60% ces Français à avoir voulu poursuivre le télétravail après la fin du confinement? Et faut-il qu'elles assument le sexe sans contact, les femmes que nous rencontrons aujourd'hui, pour accepter d'en parler si ouvertement? Au départ, ce sont des femmes meurtries, atteintes dans leur chair, agressées, violentées. Puis elles se sont reconstruites avec des objets, ont retrouvé le chemin de leur corps et du plaisir avec des petites machines perfectionnées. On pourra les trouver tristes, on pourra les juger mal ou sans intérêt. Et pourtant, je parie qu'elles disent quelque chose de notre avenir, du monde de demain, qui pour être sans contact, ne sera pas aussi ennuyeux et triste qu'on l'imagine. Tout de suite donc dans Les Pieds sur Terre, Sextoy, trois histoires un peu crues qui nomment les choses par leur nom. Elles sont signées Pauline Verdusier et à ne pas laisser traîner entre toutes les oreilles, surtout les plus jeunes.
Moi, je m'appelle Karine, j'ai 23 ans, je suis étudiante apprentie en communication. Je suis aussi modèle photo, notamment sur les internets, modèle de nu. Et j'aime beaucoup parler de ma sexualité, ça me fait beaucoup rire. Et en plus, ça détend tout le monde, donc c'est devenu ma grande passion depuis 1 ou 2 ans. Et ça coïncide parfaitement avec le moment où quelque chose est rentré dans ma vie. Moi, ma sexualité était de base un petit peu plus compliquée par le fait que ma première fois, quand j'avais 17 ans, c'était un viol. C'était un peu plus compliqué après pour apprendre à dire non, ce genre de choses. Donc j'ai accepté beaucoup de choses que je voulais pas forcément faire dans la sexualité parce que je pensais que c'était comme ça que ça se passait. Donc moi, je voulais être une bête de sexe. C'était mon objectif. Je m'étais dit « Ok ». Moi, voilà, on m'a violée, je sais pas trop comment ça marche et tout. Bah, ce que je vais faire pour compenser un peu tout ça et pour qu'on devine jamais trop que ça m'est arrivé, c'est que je vais vraiment devenir la meuf avec laquelle il faut coucher, quoi, parce que c'est une expérience. Et puis, je pouvais pas... Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais su jouir avec un partenaire, un ou une, d'ailleurs, indifféremment, mais c'est plus souvent un. Et du coup... Ce qui était très facilement remarquable pour tout le monde, pour tous mes partenaires, c'est que donc on peut me toucher, je suis très sensible. Par contre, la zone justement du clitoris, c'est pas possible. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle va s'approcher, moi je suis un peu genre, je te fais pas confiance, je sais pas ce que tu vas faire. C'est-à-dire que je te contrôle pas, donc j'ai peur parce que je sais pas trop ce qui peut se passer. Et c'est devenu vraiment mon principal frein. Dans ma sexualité, c'est ce vestige que je porte du fait de ces agressions-là, et j'ai ça, en tout cas. Bref, quoi qu'il en soit, côté masturbation, j'avais trouvé des petits moyens de faire des trucs, avec notamment une brosse à dents électrique, double tête, et tout ce qui était coussin, truc où on se frotte un peu. Si je le fais, ça dure 30 minutes, quoi. Donc, il y a un moment, j'ai autre chose à faire de ma vie, je suis quelqu'un d'actif, donc faut que ça aille vite. Et donc, un jour, je parlais avec une amie, justement, de ces difficultés-là à pouvoir jouir tranquillement toute seule. Et elle m'a parlé d'un truc révolutionnaire, pas cher. Ça s'appelle vulgairement un aspirateur à clitoris. C'est quelque chose qu'on pose sur son clitoris. C'est pas des vibrations, c'est de l'air pulsé. Il envoie de l'air, mais il l'envoie très vite, de sorte à ce que ça fasse comme un massage. Moi, parfois, quand je l'utilise, j'imagine un peu les effets comme s'il y avait des espèces de bulles, mais tout plein de bulles, qui venaient très vite s'éclater contre notre peau. Et ça fait jouir en 5 minutes, quoi, max. Alors, après qu'elle m'en ait parlé, vraiment, c'est-à-dire que j'avais dans ma liste de choses à accomplir, ça. J'en parlais tout le temps, et il y avait ce côté où, en fait, tant que je l'avais pas vu ou que machin, je voulais pas l'acheter, mais par contre, je savais que je le voulais, donc j'en parlais vraiment partout. Et en fait, il y a un photographe pour qui j'ai posé, qui est devenu mon mec après, pendant un an et demi, donc un truc un peu sérieux, entre guillemets. Quand il m'a invité chez lui pour le premier shoot, il m'a dit qu'il avait un cadeau pour moi. Donc il m'a offert cet aspirateur et il m'a dit « Est-ce que tu veux que je te laisse toute seule pour le tester ? Enfin, comment tu veux que ça se passe ?» Et du coup, je lui ai dit « Non, en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une image de moi qui jouit, puisque c'est pas possible, entre guillemets. » Et je l'ai posé. Je me rappelle avoir regardé le photographe avec une tête vraiment bizarre parce que je comprenais pas trop les sensations que je ressentais. Et j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Et en plus, de toute façon, là, c'est vraiment moi qui contrôle. Parce que moi, je peux pas utiliser un sextoy et ne pas avoir le bouton power à dispo. Parce qu'encore une fois, je sais jamais trop comment je vais réagir et tout. Donc, il faut que je puisse éteindre n'importe quand, voilà. Ce qui est magnifique, c'est qu'on peut enchaîner, quoi. Genre, j'ai joui, je me repose 5-10 secondes, et après je me dis, ok, bah allez, encore un petit et tout. Et à partir du moment où je l'ai découvert, ça a été comme mon meilleur pote. Et ouais, moi j'ai vraiment un comportement addictif vis-à-vis de ce truc. Il y a des jours où je suis à 15-20 orgasmes par jour, parce que ça me prend pas beaucoup de temps. Enfin, je veux dire, une demi-heure, c'est quand même 10 orgasmes, quoi, un truc comme ça. Du coup, je le faisais pour dormir, je le faisais pour me réveiller, je le faisais avant de manger, ou je le faisais si j'étais stressée, ou je le faisais si j'étais pas stressée, parce que, bon, pourquoi pas, ou quand je voulais être excitée, ou au contraire, quand j'avais pas forcément envie de l'être aussi, et que du coup, je me rassasiais un peu avant d'y aller. Quand je devais aller sur un shoot aussi ou un truc comme ça où j'avais envie de me sentir sexy, en fait j'essaie de me mettre dans les meilleures conditions et du coup je jouis, je me fringue bien et tout, comme ça je me sens belle et vraiment je suis au top, quoi. Et évidemment moi ça me donne aussi je sais pas, c'est comme en fer de lance, je sais pas trop, mais genre moi si demain je manifestais ou quoi, je pense que j'aurais un de mes sextoys dans la main juste pour dire à quel point ça m'a apporté. J'ai appris que le plaisir, je pouvais me le donner moi-même, en fait. Chose que je pense que j'ignorais avant. Je pensais que j'avais besoin de quelqu'un. Je sais pas, c'était pas un moyen légitime ou un moyen assez vrai de se donner du plaisir, quoi. Et moi, d'avoir ça, je sais pas, ça me fait un côté où, justement, je vais pas coucher juste pour coucher. Parce que ça m'intéresse pas, les sensations, je peux les avoir toute seule. Et du coup, je vais me concentrer sur des relations qui vont m'apporter plus que ça, nécessairement. Ce sera forcément du bon sexe, a priori, mais il y aura forcément aussi d'autres belles choses qui vont autour. Et en fait, c'est kiffant, parce que du coup, j'ai beaucoup moins de relations sexuelles, ça c'est sûr, mais elles sont tellement qualitativement meilleures. Enfin, j'ai vraiment cessé de coucher avec n'importe qui, juste pour avoir un peu de cul. J'ai cessé d'aller sur Tinder ou des applications de merde, juste pour être un peu considérée et pour ravoir cette position de bête sexuelle, je sais pas quoi. Et même aujourd'hui, en fait, j'en ai même plus envie. Parce que déjà, je le suis pas. Déjà, je suis pas une bête sexuelle et je le serai jamais, je pense. Puis parce que c'est pas ça qui compte. C'est juste le plaisir, justement, qu'on ressent. Et aujourd'hui, j'ai envie de rencontre avec du plaisir uniquement, et pas du cul. Et en fait, c'est aussi ça, je pense, qui fait la différence, c'est qu'on en apprend vraiment plus. Et dans le cul, il n'y a pas toujours de plaisir. Et en tout cas, moi, j'en ai pas pris beaucoup du plaisir à 17, 18 et 19 ans. Et maintenant, je pense que je compense, en fait. J'en prends beaucoup, beaucoup moi-même toute seule. Et le peu de rencontres que je fais, c'est des mecs qui me donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, en général.
Je m'appelle Fanny Godbarge, je suis militante féministe et activiste menstruelle à travers le collectif Cyclique qui milite pour un meilleur accès aux soins gynécologiques pour les personnes concernées. Donc en 2015-2016, j'étais encore étudiante, j'avais des petits boulots, j'étais serveuse, j'étais vendeuse dans le prêt-à-porter, je faisais aussi de la gestion de projet en festival, en événementiel. En fait, à cette époque-là, je commençais à me poser pas mal de questions sur toutes les injonctions qui sont faites sur nos corps et sur la façon dont on avait déjà de se percevoir nous-mêmes, de percevoir notre sexualité et la façon dont on la mettait en pratique. À cette époque-là aussi, j'ai vécu des violences sexuelles, donc du coup, c'est des choses qui m'ont pas mal déjà fait réfléchir, qui m'ont pas mal accablée, etc. Et au cours de l'année 2016, je cherchais du boulot, c'était assez urgent à l'époque, et j'ai postulé pour être vendeuse de sextoys dans un magasin à Paris. Et j'ai été prise, en fait. J'ai passé 2-3 entretiens avec des managers de magasins, avec la direction de la marque aussi, enfin de l'enseigne. Donc du coup, je suis tombée dans ce magasin, et assez rapidement, ça a été très enthousiasmant, en fait. Quand t'es recrutée dans ce genre de magasin, on te donne un petit package de produits à tester, qui va des produits les plus accessibles déjà en termes de prix sur les huiles de massage, les jeux, etc. Aux petits sextoys, petits vibros, donc entrée de gamme au niveau du prix, c'est genre, je sais pas, les trucs à 20 balles. Et puis après, ça peut aller jusqu'à 300 € les sextoys, donc on te fait des cadeaux, entre guillemets, pour que tu puisses tester, puis après revendre ça. Moi, le premier sextoy qu'on m'a offert là-bas, c'était un sextoy double, c'est-à-dire pénétration vaginale et vibration clitoridienne, assez cher, d'une marque qui est identifiée comme une des meilleures marques de sextoy. Et du coup, voilà, après j'en ai vendu à l'appel parce que je l'ai apprécié, donc c'était plus facile forcément. On n'est jamais aussi bon vendeur que quand on a testé les choses et qu'on les a appréciées, quoi. Et quand tu vends un sextoy, quand tu vends un plug, quand tu vends un rabbit, quand tu vends un vibro, forcément tu racontes ta propre expérience aussi, parce que tu dis voilà, moi j'ai testé ça, j'ai aimé pour telle raison, ça m'a apporté ça, je suis arrivée à ça, et puis ça m'a permis de découvrir ça. Et il y a un truc qui est assez intéressant dans la relation client, quand tu commences à vraiment discuter avec quelqu'un, il y a comme un déclic que tu sens dans le regard, parce que la personne sent qu'il va y avoir une discussion. C'est des personnes qui peuvent te raconter leurs fantasmes inavoués à des violences qu'ils ont vécues et en fait ça peut amener tout plein de sortes de conversations, mais aussi tu t'impliques dans la relation avec la personne, donc toi aussi tu te dévoiles. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un rapport qui se fait à deux. Il y a une histoire aussi qui m'a marquée au temps où je travaillais là-bas. Ça faisait pas très longtemps que j'étais là, mais il y a une dame d'un certain âge, je dirais qu'elle avait plus de 60 ans, qui est rentrée dans le magasin et qui avait vraiment une attitude et une posture hyper fermée, quoi. Donc, je la laisse faire un tour de magasin, et puis je vais la voir au bout de 5-10 minutes, et je lui dis « Bonjour, est-ce que vous avez besoin d'un renseignement ?» Elle me dit « Non, 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 c'est bon, j'ai besoin de rien, etc. » Donc je lui dis « Ok. » Je la laisse tranquille, et puis elle reste un petit moment. Et donc, je retourne la voir et je lui dis, madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là pour ça, quoi. Elle me dit, non, mais c'est quoi tous ces trucs là-bas, là? Et donc, elle montrait le coin sextoy. Du coup, je dis, c'est des sextoys, c'est des objets qui servent à avoir du plaisir, avoir des orgasmes, pourquoi pas, etc. Elle me dit, ah oui, d'accord, mais ça, moi, c'est pas mon truc, je comprends pas les gens qui utilisent ça. Écoutez, c'est bon, j'en ai assez pour aujourd'hui. Puis elle se casse, quoi. Et puis, la semaine d'après, elle revient. Donc, je la reconnais tout de suite. Et je lui dis, ah, bah, vous êtes revenue et tout. Elle me dit, oui, je suis revenue, mais croyez pas que je suis là parce que ça m'intéresse. Elle me dit, oui, voilà, en fait, c'est mon ostéopathe, c'est un grand fou. Il me dit que pour tous les problèmes que j'ai, je devrais investir dans un sextoy ou vos trucs là-bas, les vibromasseurs, etc. Et moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez comme problème? Elle me dit, bah voilà, ça fait des années que j'ai tout le dos et tout le bassin bloqué. Et en fait, j'endors pas la nuit. J'ai dû arrêter de travailler pour ça. Finalement, elle commence à me raconter son histoire et sa vie sexuelle. Et en fait, elle me confesse qu'elle a jamais eu de rapport sexuel et qu'elle ne s'est jamais masturbée. Puis en fait, je comprends qu'elle a une vie compliquée, qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle a été victime de violences quand elle était plus jeune. Et elle finit par partir en me disant, elle me lâche quand même un espèce de merci, parce que je comprends que c'est pas non plus une discussion qu'elle a tous les jours avec ses potes ou son ostéo, je ne sais qui. Et elle revient une troisième fois. Elle me dit, allez-y, racontez-moi vos trucs là-bas, à quoi ça sert. Et puis, elle finit par me dire, bon, écoutez, vu que je suis là, allez-y, je vais acheter celui-là. Donc là, elle prend un toy. En fait, je me souviens très bien le toy que c'était. C'était un toy assez simple, qui pouvait servir ou pour une pénétration vaginale vraiment point G, avec une tête plate, ou en stimulation externe clitoridienne. Un vibromasseur. En silicone, très doux, machin. Et elle l'achète, mais je sentais qu'elle était genre un peu contente, mais elle le montrait pas trop. Et puis, quelques semaines plus tard, elle revient, et là, elle avait vraiment changé de visage, quoi. Et elle était hyper contente et aussi hyper reconnaissante. Elle me dit, bon, voilà, j'ai testé votre truc. Je sais pas pourquoi je suis passée à côté de ça toute ma vie. Ça m'a tout débloqué. Je peux plus m'endormir sans me masturber. C'est tous les soirs. Ça m'aide à dormir. Ça m'a débloqué mon dos. Je me sens... En fait, elle se sentait vachement mieux dans son corps aussi, quoi. Enfin, dans sa tête, dans son esprit, etc. Et du coup, on a beaucoup discuté. Elle était super émotive, quoi. Vous me donnerez de vos nouvelles. J'espère que ça va aller pour vous, que vous êtes contente de travailler ici. Enfin, elle était vraiment dans ce mode-là, quoi. Autant il y a des gens qui sont là vraiment pour le fun, il y a des gens qui en connaissent un rayon, et puis il y a des gens comme cette dame qui connaissent rien et qui sont passés à côté. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est une solution à tout prix pour tout le monde, carrément pas. Il y a plein de gens qui, évidemment, se passent très bien de ça. En tout cas, l'histoire de cette dame était assez... elle m'a marquée dans mon parcours là-bas, et en fait, elle m'a marquée un peu à tout jamais, quoi. Et y a un dilemme qui se posait très très souvent en magasin, c'était les couples hétéros qui rentraient, donc qui voulaient un plug pour madame, comme ils disent. Et le mec qui te dit, ouais, on cherche un plug, on cherche un plug, voilà, sodomie, etc. Et donc en fait, moi je partais toujours du principe que je savais pas pour qui le plug était, si c'était pour lui ou pour elle. Et arrivait toujours ce moment assez rapidement dans la relation de vente, c'est genre c'est pour qui, c'est pour vous monsieur, c'est pour vous madame. Et là les mecs, ils étaient en mode non mais attends, tu m'as bien regardé, c'est genre limite je suis pas pédé, évidemment que c'est pour ma meuf. Et ça c'était mais tout le temps, quasiment tous les jours. Et il y avait beaucoup de meufs, alors évidemment que c'était pas tout le temps le cas. Il y a évidemment des femmes qui ont envie de ça, mais il y avait aussi beaucoup de cas, en tout cas là où je bossais et dans ce que j'ai pu vivre avec les clients, des meufs qui avaient juste pas envie, quoi, tu le sentais, et qui étaient là pour faire plaisir à leur mec. Et ça c'était un truc, on en avait plein des clientes comme ça, même des clientes qui venaient seules et qui étaient absolument dans une volonté de faire plaisir à leur mec, donc qui dépensaient 400 balles en sextoy, en tenue, en huile de massage, etc. Et puis quand tu parles un peu plus avec elle, tu te rends compte qu'elle fait ça juste pour lui, mais à aucun moment pour elle. Et tu finis par lui dire, mais et vous là-dedans, en fait, votre plaisir à vous, vous situez où dans la relation, dans le plaisir et dans l'échange, en fait. Vous vous sacrifiez là, clairement, pour votre couple, pour votre mec. Et je me souviens d'une cliente qui était ce genre de meuf, la quarantaine, hyper belle, avec des grands cheveux comme ça, et qui rentrait, qui était hyper sûre d'elle, et qui était vraiment dans cette démarche-là. Puis j'ai commencé à parler avec elle, j'ai passé 2 heures avec elle, et puis à la fin, elle était vraiment en mode, en fait, j'en ai ras-le-cul, quoi. J'en ai ras-le-cul de ce mec. Ça fait 5 ans que je me tue à essayer de lui faire plaisir. En fait, c'est plus poste, quoi. Enfin, je vais quitter le bateau, voilà. Et ça, c'était, ouais, je sais pas, pour moi, c'était des victoires, en fait. C'était des victoires parce qu'en fait, ces meufs-là, je pense qu'elles... je sais pas, elles avaient besoin d'entendre ce qu'elles entendent jamais, en fait. Et vous, en fait, genre, le dernier orgasme que vous avez eu, c'était quand ? Et puis la meuf se souvenait pas. Puis à ce moment, au moment de cette question, elle était genre, non mais c'est vrai, en fait, c'était quand ?
Je m'appelle Zuki, j'ai 22 ans. Je vis à Toulouse et je suis blogueuse sexo et testeuse de sextoy depuis 2 ans. Dans ma sexualité, j'étais déjà active depuis plusieurs années, mais c'était surtout basé sur des non-dits. À la rigueur, on parlait juste de quand j'avais mal, de ma douleur, parce que à cause de viols que j'ai subis jeune adolescente, je faisais du vaginisme, donc c'est quand le vagin est tellement contracté que la pénétration vaginale avec un pénis ou des doigts, par exemple, est impossible ou juste très douloureuse. On parlait pas non plus de masturbation solo. En fait, quand on en parlait, je mentais. Je disais que je me touchais pas et que ça m'intéressait pas. Et que je trouvais mon compte que dans la sexualité à deux. C'était faux, évidemment. Je commençais à m'intéresser petit à petit, de plus en plus, au sextoy. Et je pouvais pas garder ça pour moi, il fallait que j'en parle, mais j'en parlais toujours de façon désintéressée, comme si c'était les autres et pas pour moi. Mais ouais, il y a toujours eu, à partir de l'adolescence, cette fascination pour la sexualité. Et avec ce que j'ai pu subir, donc des viols à savoir, c'était peut-être aussi une manière de guérir de ça et de passer outre et de montrer que j'étais plus forte. Et j'ai décidé du coup, suite à des avis sur YouTube, d'acheter mes premiers sextoys à la période de Noël. Du coup, je suis devenue testeuse de sextoys. Ça veut dire que quand on commence à avoir un peu de visibilité, on en reçoit de la part de boutiques ou de marques. Et on écrit une chronique dessus, une critique, pour raconter qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. J'ai commencé à écrire un article à peu près une fois par semaine. Les sextoys, c'était devenu ça faisait partie de mon quotidien et de ma to-do list, en fait. C'est devenu un hobby prenant. Le premier sextoy que j'ai chroniqué pour une marque m'avait pas plu, donc le sextoy, du coup, c'était un aspirateur à clitoris, donc c'est une membrane qui se place contre le clitoris et qui tremble pour faire des appels d'air contre le clitoris. J'avais beaucoup d'attentes parce que c'était un type de sextoy qui est connu pour être une révolution sur le marché, etc. Celui-là n'allait pas, parce qu'il était fait pour être à plat sur une vulve qui n'était pas forcément une vulve de personne grosse, comme c'est mon cas. Du coup, ça faisait un sextoy qui n'avait pas été pensé pour moi, qui n'atteignait pas mon clitoris, en fait. Et du coup, j'ai été très déçue, alors que j'avais beaucoup d'attentes de la part d'un sextoy comme ça. Au final, c'est le plus fun, j'ai trouvé, d'écrire sur un sextoy qu'on n'aime pas. Parce que y a plus de choses à dire tout d'un coup, et ça permet d'identifier non seulement ce qu'on aime, mais aussi ce qu'on n'aime pas, ce qui est plus important. Et j'avais repéré une sorte, un simulateur de cunnilingus, une sorte de roue avec des petites langues roses en silicone qui tournaient autour d'un axe. J'ai passé un certain temps à regarder les langues roses tourner, un peu hypnotisée. Et j'ai pressé le tube pendant que les langues a continué de tourner, c'était assez marrant. Il n'y avait rien à faire, ce sextoy, en fait j'avais juste l'impression qu'il y avait soit un petit chien qui lapait un bol d'eau, soit qu'on venait tapoter mon clitoris comme si c'était, je sais pas, la barre espace d'un clavier. Finalement, ce sextoy-là, je l'ai abandonné dans un tiroir et je ne l'ai plus jamais utilisé. Et c'est devenu une malédiction parce que tous les simulateurs de cunnilingus que j'ai essayé jusque-là avaient tous quasiment plus ou moins le même effet. Du coup, l'idée de créer mon propre blog, c'était de renverser un peu cette tendance en créant quelque chose pour les concernés par une concernée. Donc les grosses, les bisexuelles, les victimes de viol, en tout cas celles et ceux qui pouvaient pas se fier à un test sextoy publié par une meuf mince et hétéro par exemple. Je pense aussi ça m'a apporté plus de sérénité dans la façon dont j'appréhende la sexualité, puisque je suis vachement plus sûre de moi, je suis quelqu'un qui vit avec un syndrome de l'imposteur en permanence, et de cultiver une expertise dans ça, ça m'a permis de le faire disparaître, au moins quand je parle de sextoy en tout cas, puisque j'en ai fait des objets de pouvoir et d'autonomie dans ma vie, c'est-à-dire que grâce à eux, je sais ce qui me fait du bien, où ça me fait du bien, je sais davantage dire non aussi, je connais mon corps, et je suis relativement à l'aise avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Dans le futur, j'aimerais bien créer mes propres sextoys de façon artisanale. Forcément, si je les créais moi-même, ils seraient adaptés à moi et peut-être à d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes que moi, pour un peu sortir du côté industriel et froid peut-être.
C'était Sextoy, un reportage de Pauline Verdusier, réalisé par Cécile Lafont avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci à Karine, à Fanny, à Zuki, à Valentin Rémy qui est notre attaché de production, à Nour Mohamedi, notre stagiaire. Je précise que cette émission a été diffusée pour la première fois en juin 2020.